France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, on a rendez-vous pour l'apéro avec Nicole Ferroni. Vous avez plein de choses à apprendre, comme moi aussi d'ailleurs, j'en ai appris plein sur celle qu'on a entendue pendant 7 ans à la matinale. Elle va notamment nous raconter son enfance au Maroc. 1000 anecdotes, on a ri et on a pleuré aussi.
Bonjour chère Nicole.
Oh là là.
Je vous embrasse. Mais ça va bien?
Mais vous?
Oh, c'est belge, j'ai envie de lui faire des câlins.
Oh. Voilà. Très très heureux de vous retrouver.
Depuis 4 ans et la dernière chronique, est-ce que vous êtes revenue sur France Inter?
Oui, je suis revenue chez Monsieur Pommier.
Oh, c'est vrai, très bien.
Petite chanson,
ouais.
Et comme d'habitude, j'ai trop parlé et il m'a dit je sais pas comment je vais réussir à monter ça.
Voilà. C'est ce qui nous attend.
Allez, c'est parti.
Charlie Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Nicole Ferroni, nous avons été collègues.
Ah oui.
Donc les auditeurs et les auditrices le savent, on se connaît un petit peu. Donc ça pourrait être un bistroscopine.
Oh, joli.
Et pour autant, il y a des choses que j'apprends de vous et que j'ai envie de faire partager aux auditeurs et auditrices. Alors, déjà, vous n'êtes pas agrégée de SVT, je suis désolée. Vous êtes super agrégée. Vous êtes arrivée 10e à ce concours national.
C'est vrai.
Eh oui, et le journal Le Monde dit elle est arrivée 10e à ce concours que certains passent leur vie à rater. Alors je me suis demandé qui j'avais devant moi aujourd'hui. Est-ce que j'ai la clown ou l'intello?
Alors, je pense un peu des deux, parce qu'après avoir été agrégée, je me suis désagrégée. Allez, jeu de mots. J'ai conservé quand même un petit bagage scientifique, mais j'ai rajouté par-dessus des blagues, si bien que l'épaisseur de la blague fait qu'on ne voit plus tant la partie intello de moi-même.
Ah, voilà. C'est ça.
Un peu comme un Kinder Surprise, vous voyez, mais inversé.
Ah oui, donc votre méthode, c'est genre qu'on ne vous voit pas arriver mine de rien.
Bam. Et là.
Et bam, là, il y a l'info, paf. Du solide. Et...
Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, effectivement.
C'est la petite technique ferronnée.
Non, et quand même, je tiens juste à préciser. Pardon, j'adore les anecdotes. Je peux placer une anecdote d'emblée?
Bien sûr, placez-en tant que vous voulez.
Non, un truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai eu. Quand j'ai passé l'agrégation, j'ai obtenu ce concours, alors qu'à l'épreuve des travaux pratiques, j'ai fait une énorme blague sans faire exprès, qui est que je devais faire une dissection de mandibule de cloporte. Et en fait, il y avait écrit sur la feuille « Veuillez disséquer les mandibules du spécimen fourni ». Et moi, j'ai lu « fourmi ». Et donc, j'ai appelé. J'étais la seule et je me disais « Mais je ne comprends pas, tout le monde a une fourmi apparemment que je n'ai pas ». Et donc, j'ai levé la main, j'ai dit « Excusez-moi, monsieur, il me manque la fourmi ». Monsieur m'a dit « Mais quelle fourmi, madame ?» Je dis « Bah, pour les mandibules ». Et je dis « Regardez, c'est écrit sur le papier ». Puis il me dit « Fourni, madame, fourni ».
Ah, voilà. Nous, on va disséquer la Ferroni, là tout de suite. C'était quoi votre sujet d'agrég, d'ailleurs?
Ah, alors, je suis tombée sur un super sujet en oral. J'ai vraiment adoré, c'était les océans. Et j'étais vraiment très contente d'avoir ça, parce que les océans, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est à la fois un sujet profond, parce que du coup, j'ai parlé de la croûte océanique, des différentes formations des océans, et à la fois vraiment un sujet superficiel, c'est-à-dire les courants marins, comment ça régule le climat, comment ça ensuite influence la biodiversité. Donc c'était vraiment pour moi un sujet que j'ai trouvé très complet, et vraiment quand j'ai lu le sujet, j'étais là « Yes !»
Et les océans sont au cœur de toutes nos discussions en ce moment. Il y a quasiment 30 COP, mais très peu pour les océans. Donc vous regardez ça avec beaucoup d'acuité?
Oui, complètement. Mmh. Mais d'ailleurs, voilà, moi qui fais des petites vidéos sur Internet, la conférence des Nations Unies sur les océans, c'est le dernier sujet que j'ai choisi, pour lequel j'ai décidé d'interpeller notre cher ministre de la Transition écologique, parce que j'aimerais bien que les aires marines protégées soient, par exemple, protégées. Je me disais comme... comme à la fin de ce terme, il y a le mot protégé, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée qu'on assure leur protection contre, par exemple, le chalutage de fond? Voilà, c'est une idée simple que j'ai eue comme ça. En me levant, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas? Tiens, protéger des aires marines protégées, donc je lui suggère, puisqu'elle pourra, elle aussi, défendre cette idée-là si elle le souhaite.
Vous continuez à interpeller, comme vous l'avez fait durant 7 ans, le mercredi matin, dans la matinale de France Inter. Mmh. Vous êtes donc scientifique de haut niveau, on peut dire. Votre père, enseignant-chercheur en chimie, d'origine italienne.
Oui.
Et votre mère, prof d'allemand, alsacienne.
Exactement.
Quel merveilleux mélange.
Ah oui, oui, oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ma mère est protestante et mon père est catholique. Et là, alors là, combo gagnant. Parce que du coup, ils se font des blagues entre eux. Type, ma mère, elle achète des confitures à la paroisse. Et vraiment, à chaque fois, elle dit, oh là là, les confitures protestantes sont vraiment les meilleures.
Hein. Il y a moins de fioritures que chez les catholiques.
Ben, j'ai l'impression, il y a peut-être plus de fruits. Mais par contre, je suis désolée. C'est vrai que moi qui ai visité quelques temples, protestant, c'est quand même moins glamour, quoi. Donc voilà,
plus austère.
Ouais, plus austère. Donc pour la visite, je choisis plutôt les catholiques et pour les confitures, les protestants.
C'est plutôt ça le schisme qu'il y a chez vous, parce que alsacienne italien, c'est aussi
aussi
culturellement il y a un fossé.
C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ma mère, elle a finalement un comportement qui est plus latin que mon père. Mon père, il est assez droit. Alors que ma mère, elle est très exubérante et voilà, ce côté de, de grande proximité, finalement, je le tiens plus de ma maman que de mon papa.
Papa, ancien colonel de l'armée.
Exactement.
Donc ça filait droit ou pas ?
Alors, je pense pour mes grands frères, oui. Pour moi, pas du tout. Parce que moi, donc, je suis la quatrième de ma fratrie et apparemment... Le phénomène parental veut que le quatrième, si déjà il survit, on est très content. Et donc moi, j'ai obtenu des droits que n'ont pas du tout eu mes grands frères et ma grande sœur. Type, passer toute mon enfance en tutu, y compris dans la rue. Donc j'ai des photos de moi où je suis en tutu à l'aéroport.
Mais non.
Et j'avais le droit de dessiner sur les murs, à condition que ça ne soit pas des gribouillis.
Vous dites que l'humoriste la plus drôle du monde, pour vous, c'est votre mère.
Ah oui, elle a des fulgurances. Genre la dernière fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait mourir de rire. Une fois, elle tombe sur l'émission qui s'appelait « À la recherche du nouveau Michael Jackson ». Alors voilà, je ne sais pas si vous l'avez raté, mais en gros, le concept, c'était de chercher quelqu'un susceptible de remplacer Michael Jackson. Et donc, voilà, choré, chanson et tout. Puis elle regarde quand même attentivement cette émission sur laquelle elle tombe par hasard. Et là, elle me dit « Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait faire aux délinquants ». C'est-à-dire, les délinquants, on les envoie dans cette émission, ils apprennent des chorégraphies, ils apprennent à chanter. Et ben après, ils ne casseraient pas les abribus, ils ne vendraient pas de la drogue et tout. Et ben, je me suis dit, mais vite, appelons Darmanin. Allô, Gérald ? Ma mère a une très bonne idée.
Oui, voilà. C'est de la réintégration.
Oui, oui, oui. Donc, attention, le monde de l'humour. Attention, le jour où ma mère sort un spectacle. Voilà, fini.
Son prénom, c'est comment ?
Elfried. Ah, waouh.
Ah oui. Bah ça c'est... Il y aura qu'elle sur le secteur.
Oui, exactement. Elfried. Et ce qui est beau, c'est que ma grand-mère lui a quand même donné un deuxième prénom. Et là, on se dit, elle va choisir un truc un peu plus passe-partout. Non, deuxième prénom, Erad.
Et on, on s'en sort quand même dans la vie.
On s'en sort, oui. D'autant que c'est une formule de ma mère qui dit « mal parti, bien arrivé ».
Ok. Voilà. Chez vos parents, il y a pas mal de formules. Hein. Votre père dit ce que tu te... Ce que... Attends, je vais reprendre. Votre père dit ce que tu...
Ah. Mais lui, il le dit mieux.
Allez, j'y vais. Ce que tu ne peux pas faire au nid, tu peux le faire ailleurs.
Oui. Oui, oui, oui. C'est une jolie formule que d'ailleurs, j'avais utilisée dans ma toute dernière chronique en matinale. Parce que voilà, mon père est aussi un grand amateur de jeux de mots. Et c'est vrai que dans le cadre de ma rupture avec France Inter, lui, il a un peu suivi ça de près. Et en fait, c'est lui qui m'a sorti cette jolie phrase. Et donc, j'ai eu envie d'abord de me le dire, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand finalement, voilà, Laurence Bloch, alors essaye, la pauvre. Elle a essayé de me dire que c'était fini. Je ne l'ai pas compris au début. C'est vrai, hein.
C'est vrai.
C'est vrai.
Notre ancienne directrice de France Inter.
Exactement. Ouais. Et vraiment, si jamais il y avait un DVD de cette réunion que j'ai eue avec Laurence Bloch, franchement, je l'achète tout de suite. Ah oui. Parce que je pense que j'ai rarement fait autant de déni dans ma vie qu'au cours de cette discussion avec elle, où elle essaye, la pauvre, de m'expliquer qu'elle aimerait me remercier et que je m'en aille. Et où moi, vraiment, en fait, je n'ai compris qu'à posteriori de cette réunion que, en fait, elle était en train de me dire que c'était fini.
Mais alors, à quel moment vous comprenez ?
Eh bien, après. Et d'ailleurs, je lui ai écrit un mail, en fait, à peu près 3-4 heures après. Je me suis dit, mais en fait, Nicole, là, ce qu'elle essaie de te dire, la dame, c'est que c'est terminé. Et donc, je lui ai écrit un mail. Je lui ai dit, écoutez, Laurence, avec réflexion, en fait, je viens de comprendre que la réunion que nous avons eue était une réunion de rupture. J'ai dit, bon, voilà, je l'intègre, j'en prends acte. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça a débouché ensuite sur un autre quiproquo où cette fois-ci, c'est elle qui a mal compris. Vous me dites, par contre, Charline, si je parle trop, hein, parce que je fais...
Non, non, Nicole, ça n'arrive jamais, ça.
Non, et l'autre quiproquo très mignon que j'ai jamais raconté, mais que je conseille, du coup, à plein de gens qui se feraient virer, c'est que la seule requête que je lui ai faite, je lui ai dit, voilà, j'aimerais quand même à minima qu'on discute du cadre de mon départ. Et en fait, moi, par cette formule, je voulais dire, est-ce que quand même à minima, vous m'autorisez à dire aux auditeurs que je m'en vais, que c'est fini, que c'est pas mon choix. C'était ça, moi, ma requête. Et en fait, j'ai eu une réunion avec Laurence Bloch et avec d'autres personnes où en fait la première phrase qui m'a été prononcée par Laurence c'était oui bon Nicole, concernant le cadre de votre départ, évidemment même si jamais vous n'êtes que pigiste, il est prévu une indemnité de départ. Et en fait j'étais un peu médusée, je me suis dit mais pourquoi on me parle d'argent? Et en fait du coup j'ai obtenu une enveloppe qui à mon avis n'était pas du tout prévue.
Ah oui.
Mais non, parce que j'étais pigiste. Donc mais moi, oui. Quand on est pigiste.
S'il n'y avait pas eu ce quiproquo, vous seriez fait carotter.
Oui, complètement.
Sur votre départ.
Complètement. Mais et du coup, j'ai obtenu une petite enveloppe juste sur la base de ce quiproquo.
Ah, voilà.
Donc si vous aussi, vous êtes pigiste et que vous vous faites virer, oui. N'hésitez pas à user de
mais
ce quiproquo.
Bien sûr, voilà.
Voilà.
Et ouais. Si vous êtes syndiqué, votre syndicat vous prévient.
Oui.
Je
voilà.
Glisse ça comme
mais
ça.
Mais vous avez bien raison de le préciser.
Mais oui, c'est la vie en société, ça existe. Et on peut l'utiliser. Pour terminer là-dessus. Vous disiez, il y a quelque chose qui coinçait, il y a une fin de collaboration. Est-ce que vous avez compris, a posteriori ?
Enfin, j'ai compris et pas tout compris. C'est vrai que la fin de la collaboration, ce qui était vraiment pointé dans mon cas, c'est la perte du clown, justement. C'est vrai que mes chroniques, en fait, étaient en train de devenir des éditos. Enfin, voilà, c'est ce qui m'avait été reproché. Et c'était un peu vrai. J'ai juste pas compris, on va dire, la différence de traitement. Parce que, à mon sens, j'étais pas la seule à avoir perdu mon clown. Et donc, je comprenais pas pourquoi, moi, spécifiquement, il fallait que je m'en aille. Mais par contre, voilà, j'ai compris quand même la critique. Et c'est vrai que progressivement, dans mon écriture, dans mon interprétation, j'ai perdu la drôlerie. Mais parce que je crois que j'avais du mal à désamorcer la gravité de ce qui se passait. Que ça soit les gilets jaunes, que ça soit la protection de l'enfance. Il y a quand même beaucoup de choses où en fait, j'avais l'impression de redire les mêmes choses d'année en année. Et aucun changement, aucune prise de conscience. Et en fait, c'était de plus en plus difficile d'en rire. Mm-hmm. Donc finalement, je veux pas dire que je remercie qu'on m'ait viré, mais en tout cas, ça m'a permis de prendre une respiration. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, par les petites vidéos que je fais, j'ai plus retrouvé cette façon de prendre les choses un peu de côté et de pas être seulement dans la colère. En fait, je suis dans la colère, toujours, mais je l'emballe d'un peu plus de blagues.
Ah oui. Certains et certaines se souviendront sans doute de votre chronique sur Alep,
oui.
Au début de la guerre en Syrie, mm-hmm. où vous aviez dit dans cette chronique « La guerre, c'est pas un truc de loin là-bas. La guerre, ça peut avoir des allures d'un ici et maintenant, qu'on prend et qu'on fracasse. C'est prendre un présent et le réduire en cendres. » Que dire aujourd'hui
Franchement, je vais me faire pleurer toute seule, mais c'est vrai.
Ouais.
Oh là là,
vous aviez fini cette chronique avec la voix étranglée, c'était à l'époque de Patrick Cohen.
Complètement.
Et là, ça vous remet les larmes aux yeux, je suis désolée, mais ça vous touche tellement qu'on n'arrive pas à mettre de distance là-dessus, c'est compliqué.
Non, en fait, c'est bien de ne pas avoir de distance aussi. Moi en fait, des fois, je regrette d'avoir de la distance sur certains sujets, j'avoue. Quand je reçois dans ma liste de mails, des mails par exemple de Médecins Sans Frontières, sur la question de Gaza, sur la question de l'Ukraine, il y a des fois je les efface parce que j'en reçois régulièrement. Et je m'en veux en fait de faire ça, rien que ce geste, je m'en veux, je me dis mais c'est affreux en fait de se dire que je veux balayer ça en fait de mon espace personnel parce que c'est une réalité qui est trop dure. Et je regrette en fait de ma prise de distance à l'égard de la douleur,
il faut
de l'horreur.
Protéger aussi un peu.
À la fois en fait, il faut se protéger. Malheureusement, j'en ai besoin parce que mon empathie des fois, elle est pas productive. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis plus touchée que je vais être plus utile. Au contraire, il y a des moments où en fait, parce que je vais être sidérée par des informations qui sont terribles, j'ai envie en fait de me mettre en boule dans mon lit, de pas sortir et de plus regarder les infos. J'ai par exemple vraiment fait ces derniers temps, une désintoxication de l'information parce que l'information mais difficile à accueillir. Et en même temps, en fait, on a besoin d'être touché pour se mobiliser. C'est-à-dire moi, là en fait, je culpabilise de pas être mobilisée. Je suis vraiment tiraillée entre mon envie égoïste d'aller bien et mon envie quand même égoïste d'être utile. C'est-à-dire l'utilité, ça fait partie des moteurs de nos vies. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment chez moi, en tout cas, un sentiment d'impuissance. D'autant que, par exemple, dans le cas de Gaza et d'Israël, je suis surtout dans une impuissance d'expression. Parce que j'arrive pas à trouver les mots justes et les mots qui me permettraient de défendre des idées, de défendre des humains, sans provoquer de la polémique, sans provoquer d'autres douleurs. Et par exemple, c'est pour ça que c'est une question sur laquelle je n'arrive pas à m'exprimer. J'ai aucun problème à interpeller notre ministre de l'écologie sur les océans. J'avoue que je n'arrive pas à interpeller Emmanuel Macron sur ce qui se passe à Gaza. J'arrive pas.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis au bistrot à l'heure de l'apéro avec Nicole Ferroni. Vous pouvez la retrouver dans son émission Piquante sur Teva, où elle est chef de bande.
Tout à fait.
La saison 2 d'Aspergirl sur OCS, on va en parler tout de suite. Et il y a même la série Zonze sur des jeunes en prison.
Exactement.
Sur France Télévisions.
Et je suis un peu partout quand même.
Vous êtes complètement partout, pour notre plus grand bonheur. C'est la série Aspergirl, c'est la deuxième saison qui démarre là. Votre personnage, Louison, est mère célibataire. Elle a un fils ado qui s'appelle Guilhem.
Oui.
Quand il était petit, il avait planté une fourchette dans la main de son petit camarade. Qui avait...
Oui, c'est vrai. Et apparemment, ouais. Il ne faut pas le faire, ça.
Non, ça ne le faites pas.
Et... Ça se fait de moins en moins, en tout cas.
Parce que le camarade avait pris le dernier yaourt à la cantine.
Oui.
Il est diagnostiqué d'une forme d'autisme. Et Louison aussi. Sur le tard, donc.
Exactement.
Voilà, votre personnage. C'est une série qui aborde le sujet de la santé mentale, la garde partagée des enfants, tous ces sujets sociétaux. C'est des thèmes qui vous parlent ou c'était vraiment pour le pognon ?
Alors, c'était pour les deux, hein. Pour de vrai, je ne suis pas concernée directement par l'autisme. En revanche, je suis dans mon entourage très concernée par la question du handicap et donc de la norme et aussi de la complexité à être adaptée, entre guillemets, ou à s'adapter à un monde qui ne l'est pas toujours. Et donc, quand on m'a proposé cette série, c'est vrai que voilà, déjà, j'étais très contente qu'on me propose une série. Merci beaucoup. D'autant que dans le cadre du tournage, j'ai tourné avec des comédiens qui sont autistes dans la vie et en fait qui m'ont fait un petit peu une formation accélérée de commencer que d'être autiste vraiment dans un monde plutôt de neurotypique. Et ce qui était assez drôle en fait, c'est que des conversations qu'on a eues, il y a plein de fois où je me suis rendu compte que c'était nous, j'allais dire les normaux, qui ne l'étions pas.
C'est-à-dire
Et ben, par exemple David, qui joue le personnage de Sven, il me racontait, parce que lui aussi, il a appris son diagnostic assez tard. Donc, quand je lui ai demandé voilà, quels étaient les éléments qu'il avait mis un petit peu aiguillés sur la piste, comme quoi il était autiste, et ben, il me disait il y a des choses qui me dérangent profondément dans nos discussions, notamment quand, par exemple, il dit vous faites une discussion. Il dit ensuite, vous dites au revoir et vous reprenez la discussion. Ce qui fait qu'on ne sait pas si la discussion est terminée ou pas terminée. Et il dit donc, moi, je me retrouve et je ne sais pas si j'ai le droit de partir, parce que normalement, on s'est dit au revoir, donc je suis censée pouvoir m'en aller. Et en même temps, la personne continue de me parler. Et donc, voilà, il m'expliquait pour lui que c'était difficile. Alors que c'est vrai que moi, je le fais tout le temps. Là, par exemple, à la fin de l'émission, je vais dire, allez, bisous, Charline. Ah, au fait, tu pourras me dire comment on va, nanana. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, mais il a raison.
Et c'est vrai que le fonctionnement très ritualisé du quotidien, les intérêts comme les obsessions un peu spécifiques sur des thèmes, les difficultés dans les interactions sociales, on a l'impression, on sent qu'elles ont été très documentées pour pouvoir les adapter en comédie.
Complètement. L'écriture du scénario a été vraiment supervisée par une personne qui est expert de l'autisme, qui est autiste elle-même. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'on est aussi dans le casting des comédiens autistes, ils ont vraiment pu éclairer des a priori qu'on peut avoir en tant que comédien et en tant que scénariste. La formation s'est faite beaucoup sur place pour moi. Et après, dans le fait que j'accorde de la confiance sur tout ce qui avait été supervisé dans les textes. Les scénaristes ont dû modifier pas mal de choses, notamment sur la proximité corporelle, des fois des personnages qu'ils avaient prévus. Et voilà, où on me dit, non, ça, elle ne peut pas le faire parce que normalement, elle ne s'autoriserait pas. Ou en tout cas, la majorité des personnes autistes ne se permettraient pas ça. Et voilà, des choses qui ont été corrigées ensuite au scénario.
Et l'autisme se détecte beaucoup plus tard chez les femmes, alors c'est le cas de votre personnage ?
Oui. Donc, dans le cas de mon personnage, en fait, Louison apprend qu'elle est autiste au moment où on fait passer le diagnostic à son fils. Et en fait, les scénaristes se sont vraiment inspirés de plusieurs cas très concrets qui avaient été documentés. Et en fait, c'est vrai que les femmes, apparemment, sont, de par leur condition de femme et de devoir toujours s'adapter socialement à tout, à que ça soit dans leur couple, dans leur travail, voilà. Donc là, je me permets de passer quelques messages. Fait que, y compris dans le cadre de l'autisme, les femmes autistes ont cette suradaptation de savoir mieux camoufler l'ensemble, j'allais dire, de leur singularité. Elles se laissent moins s'exprimer. Mm-hmm. Voilà, ce qui est déjà le cas des femmes dans leur ensemble, et dans le cas de l'autisme, ça se reproduit, ce phénomène-là.
Très bien. C'est donc la deuxième saison d'Aspergirl que vous pouvez voir sur OCS, une série créée par Judith Godino et Adrien Cousin, et réalisée par Alice et Rose Philippon, avec notamment Arthur de Crépy qui joue Guilhem,
tout à fait,
votre
tout
fils.
À fait.
Vous avez démarré l'humour en jouant des personnages, Nicole Ferroni. J'ai réécouté votre première interview sur France Inter. On est en 2011 parce que vous étiez d'abord invitée avant de devenir chroniqueuse.
Oh là là, j'étais un bébé cadom.
Les affranchis d'Isabelle Giordano. J'ai réécouté pendant 4 minutes, vous enchaînez les personnages même. Vous faites Booba ou une petite fille de 8 ans.
Ah oui, ah c'est vrai. Dans mon premier spectacle, j'avais effectivement un personnage de Booba qui était un personnage de rappeur et tout, bra bra. Et en fait, je faisais une genre de réinterprétation du petit lapin de Chantal Goya. Et donc, j'étais ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et en fait, c'est que le personnage permet un décalage que des fois ne permet pas l'usage de sa propre voix. Mmh. Voilà.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'à France Inter, quand j'ai arrêté les personnages, je comprends que du coup, bon, il y a eu un peu moins de drôlerie. Et donc là, maintenant, j'ai remis le personnage, le paravent du personnage, et paf! Du coup, on peut dire des choses en tant que personnage qu'on ne dirait pas nous-mêmes. Comme ça, je mets toute la responsabilité sur le dos du personnage. Et si les gens me disent « Oui, quand même, vous avez dit ça », je dis « Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon personnage.
» Oui, par exemple... Donc
c'est lui qui ira au tribunal,
oui,
par exemple.
Exactement.
Mais si, par exemple, la ministre de l'écologie, elle dit « Eh, oh, diffamation », je dis « Ah, mais c'est pas moi, Madame Pannier-Runacher, c'est le personnage qui aime. » Donc, attaquez-la, elle, en justice.
Le personnage de psychologue, notamment.
Exactement,
qui reçoit dans son cabinet les hommes ou les femmes politiques.
Oui.
C'est une séquence
J'aime bien faire des petites
sur
thérapies.
Teva, et qu'on peut suivre aussi sur votre compte Instagram, bien sûr. Tout ça vient de la MJC d'Aubagne au départ, non? Vous faites du théâtre et du slam, et là il y a quoi, le déclic de la langue?
Complètement, en fait le déclic de l'écriture déjà, parce qu'en fait je ne savais pas que j'aimais écrire. J'ai d'ailleurs eu des très mauvaises notes en philo, je faisais du remplissage, et comme à l'époque ChatGPT n'existait pas, il fallait inventer soi-même des phrases creuses. Donc j'ai eu des très mauvaises notes. Et en fait, quand j'ai démarré le slam, un peu par hasard, hein, tout simplement, parce que je suis tombée sur un prospectus d'une soirée slam et j'ai fini par y aller. Et que soirée slam, il y a souvent des exercices d'écriture qui sont proposés. Donc le premier exercice d'écriture auquel j'ai participé, c'est un appel aux mots. A-U-X plus loin, M-O-T-S. Hein.
Ouais.
Et en fait, l'idée, c'est qu'on demande au public 10 mots et on écrit un texte en essayant d'intégrer les 10 mots.
Oh, wow.
Ben, sachant que les mots doivent être intégrés de façon sonore. Donc, par exemple, s'il y a le mot cafard, on n'a qu'à dire t'as cafard ceci. Enfin, je sais pas, exemple.
D'accord.
On a le droit, voilà, on a le droit un petit peu de gruger. Et en fait, c'est vraiment cet exercice-là qui m'a donné le goût de l'écriture et le goût de la sonorité des mots, le fait de jouer avec les mots.
C'est un bon conseil, ça, dites donc.
Vraiment, je conseille le slam.
Mais ouais.
Après, j'aurais bien aimé vous conseiller les MJC, mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Et donc, par exemple, celle d'Aubagne, dans laquelle j'ai démarré, n'existe plus. Ouais, je sais, désolée. Non, et alors j'avais interpellé, parce que vous savez comment je suis. Hein.
Oh,
ça interpelle. Hein. Oh, moi, j'adore, j'interpelle dès que je peux. Donc, j'avais interpellé la ministre de la Culture de l'époque. Et alors, je sais plus, c'était Fleur Pellerin peut-être ou Philippe Etty, je ne sais plus. Et ce qui avait été très drôle, encore une anecdote de Ferroni, j'avais été convoquée par un membre de son cabinet qui m'avait proposé qu'on discute de cette affaire dont j'avais parlé à France Inter en matinale, et qui m'avait dit oui mais Nicole, tenez-nous au courant, hein, vous avez raison sur ces fermetures d'MJC, tenez-nous au courant. Et moi j'étais là, mais en fait je vous tiens au courant, en fait je suis là pour ça. C'est exactement ce que je fais, madame.
C'est encore plus énervant.
Oui. Mais voilà, je veux dire, dites-nous, hein, nous on veut suivre ce dossier de près. Et puis bon, donc ce que j'ai essayé de faire en fait.
Ouais.
Encore le déni, hein, le déni. Mais le déni n'était pas que de mon côté.
Et puis les ministres changent tellement souvent que suivre les dossiers, on n'y croit plus trop, ça, c'est sûr. Et quand vous arrivez à Aubagne, vous venez du Maroc, c'est là que vous êtes née.
Oui.
Et vous avez vécu jusqu'à vos 7 ans, parce que vos parents étaient aussi coopérants, en fait, c'est
exactement.
Ça, hein. Vous avez quel souvenir de Casablanca, toute petite?
Ah, alors, les souvenirs que j'ai, déjà, sont des très bons souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs du muezzin, le chant du muezzin, le Allahu Akbar, voilà, qui rythmait en fait vraiment la journée. Et presque, je ne veux pas dire que j'étais étonnée.
Le bar vient de se vider.
tout le monde est plaqué à terre, je comprends pas pourquoi.
Non, en fait, moi j'étais presque étonnée en arrivant à Aubagne. Limite, je me suis dit, mais il est où le muezzin? Oui, donc moi c'est vrai que ça rythmait sonore.
Oui, parce que c'est très tôt le matin déjà. Donc ça,
complètement.
Oui, c'est ça.
Et après, j'ai vraiment un souvenir d'abord humain parce que j'avais une nounou qui s'appelait Sadia, mais qui est toujours vivante aujourd'hui, qui s'appelle toujours Sadia, donc, qui en fait m'a vraiment élevée en partie. Parce que donc voilà, comme moi j'étais vraiment la dernière de ma fratrie, la petite dernière que mes deux parents bossaient, j'étais beaucoup gardée par elle, et donc voilà, c'était vraiment ma maman de cœur. Et j'ai beaucoup de souvenirs culinaires, vraiment de bouffe, quoi. Et le couscous reste mon plat préféré. Et d'ailleurs, je suis née un vendredi à 13h. Vendredi, c'est les jours du couscous. 13h, c'est quasiment l'horaire du couscous. Donc ma sœur, elle dit, non mais toi, en fait, tu es sortie parce qu'il y avait le couscous.
Ah, mais ça veut dire qu'en arrivant à Aubagne, vous laissez quelqu'un derrière vous?
Oui, c'est vrai. En partie, j'ai laissé quelqu'un de très cher. Et en même temps, j'avais un côté... d'admiration, j'allais dire un peu marketing de la France, parce qu'en fait je venais quand même les étés en France, mes parents avaient une maison en France, donc l'été on venait en France, et en fait j'ai découvert à ce moment-là les hypermarchés. Moi j'étais très corruptible quand j'étais enfant, c'est-à-dire si tu me disais ouais mais tu sais en France il y a des glaces et des petits suisses. Et moi, pour moi, la France, c'est vraiment les petits Suisses aux fruits. Et donc, j'ai vraiment eu une passion pour ce pays, immédiatement, de me dire « Waouh, mais je vais quand même vivre au pays des petits Suisses, quoi. »
Ah,
donc,
oui.
Au pays normal. Des petits Suisses et au pays des dessins animés.
Ouais. Parce qu'en fait, quand c'est la télé qui nous abreuve de ça. Moi aussi, moi, j'étais en Belgique et je voyais couler la crème Mont-Blanc sur l'écran. Je voulais venir en France.
Ben voilà.
Ben, c'est ça, c'est la force du marketing et de la pub.
Ça et de Dorothée aussi. Et de Dorothée. Ouais. Parce qu'au Maroc, en fait, la plupart des dessins animés étaient en arabe. Il y avait quelques dessins animés en français. Et j'avais des cassettes VHS avec toujours les mêmes dessins animés. Donc, que je regardais systématiquement. Et donc, quand l'été, je venais, je découvrais le club Dorothée. Donc, voilà, pouvoir voir d'autres.
Et l'adaptation à Aubagne, ça s'est fait très bien?
Oui, ça s'est fait très bien parce que je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis très tôt. Mais j'ai eu quand même une petite période mytho en arrivant en France. C'est vrai, je le dis, puisqu'il paraît que cette année, la santé mentale, c'est cause nationale, la grande cause nationale de notre pays. Je faisais partie des gens qui ont développé une mythomanie. Très certainement parce que je pense qu'en voulant me trouver des amis, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de se trouver des amis quand on n'en a pas? Leur mentir, évidemment. Et donc, je racontais que j'avais un haras de pur sang arabe. Et mes copines que j'ai gardées, parce que j'ai toujours mes meilleures amies de CE2. C'est-à-dire la première année où je suis arrivée en France, je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui. J'essayais de les séduire en leur disant que j'avais un haras de pur sang et j'allais leur offrir des chevaux.
Mais alors, à un moment... qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben, à un moment donné, quand même, elles ont fini par découvrir la supercherie. Et elles m'en ont pas trop voulu.
Oh.
Ouais, elles ont été hyper déçues. Parce que quand t'es en CE2 quand même et qu'on te promet un cheval.
Ah ouais.
Mais elles avaient quand même quelques doutes sur la façon dont ces chevaux allaient arriver en France. Parce que je disais, ah, mais oui, en avion. Mais un cheval, ça rentre dans un avion. Bien sûr qu'il y a des avions pour les chevaux.
Donc après, l'agrégation réussit haut la main en SVT. 2006, vous faites vos premiers pas dans un collège difficile à Marseille.
Tout à fait.
Quels souvenirs vous en avez de ça?
Une année très, très dure. Ça a été l'année la plus difficile de ma vie. D'abord, humainement, parce que je pense que je n'avais pas du tout prévu de rencontrer la réalité à laquelle j'ai été confrontée. C'est-à-dire que je connaissais les quartiers difficiles un peu pour avoir été moi-même élève en collège ZEP, mais pas à ce point-là. Là, c'est vrai que le collège dans lequel j'étais à Marseille, dans lequel je suis devenue enseignante, il était ZEP, mais il était aussi ZS, ZV et ZAR. C'est-à-dire ZS, zone sensible, ZV, zone violence. Et à l'époque, il existait un beau sigle qui s'appelait ZAR, à savoir zone ambition réussite. Et j'aimerais rencontrer les personnes qui se sont dit, viens, on va créer ce sigle. À partir de critères hallucinants.
Enfin, ils ont dit après, non, mais on veut suivre le dossier.
Oui,
c'est ça, c'est les mêmes. Hein.
Ouais. C'est les mêmes, exactement. Juste pour dire, voilà, le critère ZAR, zone ambition réussite, en fait, c'est des établissements qui cumulaient à la fois des taux de délinquance très fortes, à la fois des quartiers où le chômage était important, et à la fois le retard scolaire. Et j'ai souvent parlé d'une fois où vraiment je me suis dit, en fait, je ne peux pas rester à l'éducation nationale. La fois où moi, je fais un cours sur la sexualité et la procréation, et où, voilà, où j'explique que dans le cycle de la femme, un ovule est émis à chaque cycle, et que donc la probabilité qu'elle tombe enceinte n'est pas proportionnelle au nombre de partenaires. Et d'un coup, et en fait, j'avais un élève qui m'a dit, mais madame, en fait, parce que justement, j'allais vous demander pourquoi la fille elle tombe pas enceinte quand on est 5. Et en fait, je me souviens qu'il y a vraiment une partie de moi qui a maintenu la façade pendant que l'autre partie était en train de s'effondrer. Parce que vraiment, j'avais un élève en fait qui était en train de parler de viol collectif, en fait.
Ah, ouais.
Et je me disais, je n'ai pas les épaules pour accueillir ça. Je voulais être prof d'SVT, donc je voulais parler des océans. Moi, vraiment, j'avais envie de dire, moi, écoute, le plancher océanique est formé de basalte et de gabbro. Et à ce moment-là, dans cette situation, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment accrochée à mon savoir scientifique. Et c'est après coup, en fait, une fois que la classe est sortie, où je me suis assise dans ma classe et je me suis mise à pleurer, en fait. Et après, j'ai contacté le CPE, l'infirmière scolaire, pour qu'on trouve comment gérer cette situation. Mais c'était une réalité qui était trop violente pour la Féronie que j'étais, quoi.
Et pourtant, vous faisiez tellement d'efforts. Il y a un moment, pour la visite de l'inspecteur, vous achetez des cahiers pour les élèves qui n'en ont pas. J'ai donné beaucoup de vous.
C'est vrai. Mais oui. Et comme beaucoup de profs, moi, c'est vrai que ça me fait tellement de la peine, maintenant que j'y suis plus, ouais. Quand les profs ne reçoivent pas de reconnaissance pour tout l'investissement qu'ils font, parce que ça, par exemple, c'est une réalité qui est reproduite tout le temps. Les professeurs investissent énormément d'argent personnel pour permettre le fonctionnement de leur classe.
D'ailleurs, vous n'arrivez pas à rire de l'état de l'école. Ça, c'est quelque chose qui est trop... Il n'y a pas de distance non plus, là.
J'ai essayé, hein. J'ai fait un peu des blagues et tout, mais c'est trop difficile.
Comment est-ce que vous avez pris conscience pour la première fois que le rire, c'était une forme de pouvoir aussi, qui devient un contre-pouvoir,
mais... Oh là là.
Est-ce que c'est devant les élèves?
Non, je pense que c'est devant la famille.
Ah.
Parce que quand on est un enfant qui va se faire engueuler parce qu'il a fait une grosse bêtise, et que d'un coup, hop, pirouette, cacahuète, une petite blagounette fait que ma mère n'arrive pas à m'engueuler, et ben là, on se dit, hey, j'ai un pouvoir, tu voulais garder ton autorité, et elle a fondu sous les rires. Voilà. Ouais, c'est plutôt, je pense, la famille.
Et pour autant, dans les dernières années de vos chroniques sur France Inter, vous faisiez un véritable travail de veille parlementaire.
Oui.
Je me suis demandé d'où vient cette passion pour les directives européennes et le fonctionnement des commissions mixtes paritaires.
Oh, c'est vrai. En fait, ça me vient de la curiosité. Non, et ça me vient de France Inter. Parce que quand j'ai démarré à France Inter, en fait, j'aimais pas la politique, ou je croyais que j'aimais pas ça. Je croyais que c'était vraiment quelque chose de soporifique. Et ça peut l'être, hein, vraiment, des fois. Et en même temps, quand on commence à regarder un peu les vidéos que mettent à disposition l'Assemblée nationale, le Sénat, sur le fonctionnement des commissions, sur ce qui se passe à l'hémicycle, en fait, c'est vraiment comme une série. Et je le conseille, hein, souvent je dis...
Sur LCP
vous avez aimé Game of Thrones, mais regardez plutôt la CMP. Non, CMP, il n'y a pas de vidéo, mais regardez les commissions. Il y a du débat, il y a du stratagème, il y a des mauvais coups.
Et grâce à la vidéo ou aux chaînes comme LCP, etc., on peut tous faire en tant que citoyen un travail de veille si on a un peu de temps.
Oui. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de temps, il faut même en avoir beaucoup. Ouais. Et moi, voilà, j'ai cette petite passion, notamment sur la tranche horaire, genre 1h, 2h du matin. Parce qu'il y a quand même des députés qui se couchent très tard, des fois, sur certains textes, hein, notamment le texte du budget, tout ça, où là, on voit que la fatigue aidant, les gens se révèlent de mieux en mieux.
Ouais.
On dit « Ah ouais oh. !»
Et ça, vous le racontiez le matin à France Inter, et ensuite, il pouvait y avoir une conséquence, un impact, un petit impact sur la vie parlementaire.
Des fois, oui. Ouais. Ça m'est arrivé, je pense, pour la pêche électrique. Pour la pêche électrique, j'ai fait une chronique... dans lequel, justement, j'avais parlé de la commission pêche, qui est donc une des commissions qui a été à ce moment-là présidée par un député français. Et en fait, le fait que ça soit lui, le député qui soit en tête de cette commission, a fait que ma chronique, ayant mis un petit peu la chouma, comme on dit, il s'est senti obligé de répondre à mes accusations, mais qui étaient assez fondées. Et donc, on a eu ensuite tout un débat sur Twitter, etc. Et en fait, alors, je ne veux pas dire que j'ai fait basculer le vote, mais en tout cas... Les pronostics n'étaient pas en faveur de l'interdiction de la pêche électrique. Et puis à ce moment-là, elle a été obtenue. Donc j'ai envie, moi et mon égo, de croire que j'ai contribué à quelque chose.
Ouais, voilà. C'est un surveillant démocratique, l'humour, pratiqué de cette manière-là. Donc, est-ce que l'idée de vous engager en politique vous titille un peu?
Complètement, ça me titille beaucoup.
Depuis quand? Depuis...
Depuis que je m'intéresse à la politique. Ah, ouais. Ce qui ne me plairait pas du tout comme mandat, c'est... ministre,
Bah, je le dis.
Bon, ça, non. Ça,
oui,
c'est,
allô.
Autant
écoute,
le savoir
Emmanuel.
Tout de suite. Voilà. Nicole, voilà. Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, soit...
C'est pas la peine. Arrêtez d'insister.
Non, non, vraiment, je vous dis, Manu.
N'insistez
Manu,
pas.
Non.
Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse
non,
pas.
Non. Oh, écoutez, quand même.
Quand même.
Non, en fait, soit une mère d'une petite localité, petite ville, ça, j'aimerais beaucoup. Ah. Parce que là, du coup, action très concrète, pas trop de compromis. Voilà. On n'est pas obligé aussi de coller à une étiquette nationale. On peut vraiment faire ça tambouille. Je visais soit La Penne-sur-Uvonne, qui est donc à côté d'Aubagne, parce qu'Aubagne, c'est presque déjà trop grand. Aubagne, on est déjà 50 000 habitants. La Penne-sur-Uvonne, c'est plus petit.
Attendez, vous êtes en train de vous déclarer candidate, là. C'est en 2026.
Non, mais alors, pas tout de suite. Non, non, voilà, pas tout de suite, parce que là, je sens que quand même la charge mentale est très, très grosse.
Vous évaluez en encore, mais vous
oui,
ça,
complètement,
ça vous tente.
Complètement. Ouais. Non, et d'autant que La Penne-sur-Uvonne, il y a une place à se faire, puisque je crois que le maire est toujours en prison.
D'accord.
Oui. En plus, j'ai failli avoir un discours de ce monsieur le maire juste avant mon spectacle, parce que j'ai joué à La Penne-sur-Uvonne. Et c'est ça, vous voyez, c'est ça où le terrain vous fait vous confronter à des situations improbables.
Nicole Ferroni, la dernière phrase de votre premier One Woman Show, c'est « Dans la vie, les croix, où tu les portes, où tu les traces ». C'est votre philosophie, vous l'appliquez encore ?
Oui, oui, c'est vrai. Je trace un peu à la fois des croix, puis je trace mon chemin. Là où, par exemple, ben voilà, au début, la porte fermée de France Inter m'était vraiment apparue comme une porte fermée. Et ben, ben déjà, finalement, elle n'est pas tant que ça, puisque
bah,
vous
regardez,
m'invitez,
vous
hop, je repasse par la fenêtre. Et puis parce que ça m'a ouvert d'autres choses. Donc, ouais. Merci beaucoup, Charline.
Merci, Nicole Ferroni.
Love sur vous.
Hein. Oh, c'est trop mignon. Je savais que vous alliez dire un truc après avoir dit au revoir. Vous allez vous faire engueuler par vos petits copains de Asperger. Love sur vous aussi, ma chère Nicole Ferroni. C'est un plaisir de vous réentendre sur cette antenne. Et je rappelle Asperger sur OCS, il y a toujours Piquante sur Teva et Zonze sur France Télévisions. Et on vous suit avec plaisir. Voilà, Bistroscopie, c'est fini. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, Lucien Lefebvre à la technique et Laurent Baudouin au mixage. Merci aussi à Karine Aubertuig à la documentation et Suzanne Bonnereau pour le web. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.